Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi à Kinshasa. Bienvenue à l'écoute du journal. Donc voici les titres. Ce mercredi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Au sud Kivu, les femmes exigent la fin de la guerre qui a trop duré dans le Kivu. Elles demandent au président de la République de tout mettre en œuvre pour le rétablissement de l'intégrité territoriale de la RDC. Au nord Kivu, des violents combats opposent depuis ce mercredi matin les FARDC aux rebelles du M23 RDF sur les collines surplombant le village de Kirotche dans le territoire de Massissi. Selon des sources sur place, la panique pousse les populations de Kirotche et de Chacha à se déplacer les uns vers Minova et les autres vers Bweremana. L'invité de ce journal est le président de l'Association africaine des droits de l'homme. Jean-Claude Katende demande la révisitation du contrat passé entre certaines entreprises chinoises et l'État congolais en soutien avec d'autres organisations aux conclusions de l'inspection générale des finances. Mesdames, Messieurs, bonjour au sud Kivu. La journée internationale de la femme, ce mercredi 8 mars, est célébrée dans la ville de Bukavu. Les femmes du sud Kivu exigent la fin de la guerre qui a trop duré dans les Kivu. Elles demandent au président de la République de tout mettre en œuvre pour le rétablissement de l'intégrité territoriale de la RDC. Elles se sont exprimées à l'issue de la marche pacifique ce mercredi 8 mars dans les rues de Bukavu. Emmanuel et la Mejo Kabedi pour des détails.
Elles étaient de dizaines et des milliers dans les rues de Bukavu ce mercredi 8 mars 2023. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, commerçantes et jeunes filles ont marché pour célébrer la journée dédiée aux droits de la femme. Les femmes du sud Kivu disent être fatiguées à subir des conséquences de guerre à répétition.
Les femmes du sud Kivu demandent au chef de l'État, en tant que garant de la nation, de pouvoir nous aider tous ses moyens afin de restaurer l'intégrité territoriale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, d'encourager la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle et de réconciliation, en l'occurrence l'Est de la RDC qui a subi des crimes commis à grande échelle. Les efforts des femmes au niveau communautaire sont anéantis par des guerres et des conflits armés à répétition et qui traînent à trouver des solutions. La femme de l'Est les lasse de se lancer des cris de détresse à la communauté internationale d'appuyer sur le bouton pour stopper cette guerre économique et injuste qui n'a que trop duré.
Ce mémorandum a été remis au gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malaboka Chekere, pour transmission au chef de l'État. Emmanuel Elamijoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le docteur Denis Mukwege invite les autorités congolaises à associer pleinement et effectivement toutes les femmes dans les démarches visant à restaurer et à consolider la paix. Cela en conformité avec la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. En outre, au regard de la persistance des conflits armés dans la partie est du pays, pour le prix Nobel de la paix, la journée du 8 mars est une journée de deuil et non de fête. Ainsi, dans un message rendu public aujourd'hui à Bukavu, Denis Mukwege invite les femmes à s'habiller en noir. Des détails avec Cynthia Bachizina Bizana.
Pour le docteur Denis Mukwege, les femmes sont encore considérées comme des citoyennes de seconde zone et c'est elles qui payent le lourd tribut de la violence armée dans l'est du pays. C'est ainsi qu'il invite les femmes à réclamer plus de sanctions contre l'agresseur indexé, mais surtout à se prendre en charge, surtout dans le contexte électoral actuel. Pour changer de paradigme, les femmes, selon docteur Mukwege, doivent se mobiliser pour participer en masse à tous les scrutins à venir. Une chose qui permettra d'avancer vers la parité dans les institutions de la République et favoriser la pleine participation des femmes à toutes les questions de vie publique. Toujours au regard des enjeux électoraux pour cette année, Denis Mukwege demande aussi aux femmes de s'organiser pour l'observation des élections à tous les niveaux et à devenir les sentinelles de la démocratie. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Kapi.
Journée internationale de la femme au Maniema. Le coup d'envoi des activités a été lancé par le gouverneur intérimaire à la tribune centrale de Kindu. C'était devant plusieurs femmes venues de différents coins. La chef de division genre, famille et enfants, Kapunga Sifayao, a fait savoir pourtant que l'accès aux femmes et filles du Maniema à la nouvelle technologie reste un défi majeur. Reportage à Kindu de Florence Kizalunga.
Venues nombreuses pour participer au lancement des activités de ce mois, les femmes portant des calicots vêtues en uniforme et d'autres en noir disent célébrer ce mois sous la méditation et pas des festivités, étant donné que la partie est de notre pays est agressée et que les femmes et filles sont les premières victimes. Kapunga Sifayao.
Les femmes du Maniema célèbrent la journée internationale de la femme dans la méditation parce que nous devons nous voir la situation dont notre pays est en train de traverser à l'est de la RDC. Et cette guerre injuste qui nous a été imposée par le Rwanda, c'est une guerre qui remet à genoux les femmes et les enfants. Parce que tel que vous connaissez, les enfants, les femmes sont les premières victimes. Nous, au niveau de la province du Maniema, nous n'avons pas à festoyer. Et durant les mois, les femmes vont s'investir dans différentes activités pour arriver à renforcer leurs capacités à ce qui concerne le numérique.
Les gouverneurs intérimaires, tout en souhaitant bonne fête aux femmes, ils les invitent à ne pas se sous-estimer. Afani Idrissa a demandé à tout le monde d'accorder une place de choix aux femmes dans la prise de décision et dans son autonomisation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Kisangani, un groupe de femmes réunies au sein de l'AFEVADES, association des femmes valorisatrices des déchets de scierie, produisent une braise spéciale nommée Makala Vert. La matière première est constituée essentiellement des déchets de bois provenant d'une scierie de la place, une manière de lutter contre la dégradation des forêts. Un projet appuyé par CIFOR ICRAF, Centre de recherche forestière internationale. Les avantages de cette production avec vous, Billy Van Lutumba, envoyé spécial des Radio Kapi à la deuxième conférence internationale sur la biodiversité dans le bassin du Congo, à Kisangani.
Il s'agit d'une vingtaine de femmes résidant au point kilométrique 8 de Kisangani sur la route de l'aéroport. Elles sont productrices du makala vert. Georges Mumbere, expert junior à CIFOR, explique.
La CFT, au lieu de mettre le feu sur les déchets, était d'accord avec nous de libérer ces déchets auprès des femmes afin que les femmes puissent les transformer en charbon de bois. Les femmes ne partent pas en forêt justement pour couper afin de contribuer à la dégradation, non. Mais par contre, ces femmes transforment les déchets de scierie qui a extrait ces arbres selon les normes environnementaux et qui sont acceptables par le gouvernement congolais.
Maman Fatouma Myriam est coordonnatrice de ces femmes valorisatrices.
Déchets à bois de chauffe.
Ces déchets, on achète à 90 000 francs et ils les livrent où se trouve le four fixe. Ça nous prend 3 jours ou 4, et puis après, le makala est prêt et on le ressort. Et on peut en produire 8 à 9 sacs. Par mois, nous pouvons produire jusqu'à 100 sacs de makala. Et le bénéfice est de 400 à 500 000 francs congolais.
Sur le plan de la conservation des forêts du bassin du Congo, Georges Mumbele révèle que...
Et donc, les ménages s'approvisionnent maintenant avec le charbon vert, qui est ici des déchets de scierie. Et par conséquent, cela réduit la dépendance des ménages envers les autres producteurs de charbon de bois qui coupent la forêt naturelle.
Le vœu de cette association féminine est que d'autres entreprises s'ajoutent pour éviter plus tard une rupture d'approvisionnement en déchets de bois.
Nord Kivu, devions la combat oppose depuis ce mercredi matin les FARDC aux rebelles d'M23 RDF sur les collines surplombant le village de Kirotche dans les territoires de Masisi. C'est à environ 10 km à l'ouest de Sake. Selon les sources sur place, la panique entraînée par ces combats pousse les populations de Kirotche et de Chacha à se déplacer les uns vers Minova et les autres vers Bweremana. Sur le front nord, nos sources parlent d'autres accrochages ce mercredi matin sur l'axe Mabenga-Ruindi. Des détails avec vous, Blaise Sundani.
C'est depuis 6 heures locales que les combats ont encore repris ce mercredi dans le village Ngingwe, au sud de Karuba, dans le groupement Mufuni-Shanga. Des sources locales pensent que les rebelles auraient l'intention de couper la route nationale numéro 2 entre Sake et Minova au niveau de Kirotche. Toute la matinée, l'armée congolaise et les groupes armés locaux d'autodéfense résistent cependant à cette tentative, renseignent les sources concordantes. Les détonations d'armes lourdes et légères sur ces collines surplombant les villages. Le village de Kirotche et Chacha pousse de nombreux habitants de ces villages à se déplacer massivement. Les uns vont vers Sakegoma, les autres vers Bweremana et Minova au sud Kivu. Pendant ces temps, sur le front nord, d'autres affrontements ont été signalés dans la matinée sur l'axe Mabenga-Ruindi au nord du territoire de Rutshuru. Signalons que ces affrontements se poursuivent après la déclaration par les M23 RDF de l'entrée en vigueur de leur accord de cesser le feu à 12 heures hier mardi. Mais le même mardi soir, le porte-parole du gouverneur militaire a dénoncé la violation des cessez-le-feu, accusant les M23 d'avoir attaqué ses positions à Karuba, dans les Masisi et sur l'axe Kibirizi-Windi et Mabenga-Windi dans le territoire de Rutshuru. Selon les majors Njike et Kaiko, c'était après des bombardements des rebelles sur Sake lundi soir, causant 3 morts et 7 blessés parmi les rebelles.
Le projet d'ordonnance loi proposé par le ministre de la Défense et qui organise la réserve au sein de l'armée congolaise, ainsi que ses conditions pour y accéder, doit être bien compris pour ne pas prêter à confusion. C'est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui a tenu à apporter un éclairage sur la philosophie de ce corps. C'était au cours du briefing hebdomadaire avec la presse hier soir à Kinshasa. Occasion pour le ministre de préciser la définition du concept réserviste ainsi que l'objectif de ce corps qui peut accueillir tous les citoyens congolais qui remplissent les critères. D'après le ministre, les réservistes ne deviennent pas automatiquement des militaires et pour ceux qui voudront aller à la réserve, il y a un cursus et des conditions à remplir, a souligné Patrick Muyaya. On l'écoute.
Ce n'est pas de manière automatique que membre d'un tel groupe que vous devenez d'office réserviste. Je dois signaler ici que les réservistes ne deviennent pas des militaires, parce que ce n'est pas un service permanent. Pour ceux qui seront ou qui pourront aller à la réserve et qui estiment qu'ils peuvent aller dans l'armée, il y a un cursus militaire qu'il faut suivre en ce moment-là. Et parmi les conditions qui sont prévus pour faire partie de ces corps de réservistes, il faut être de nationalité congolaise, être âgé de 18 ans révolus, jouir d'une très bonne moralité, n'avoir été jamais condamné pour une quelconque forme de crime. Ça veut dire que la réserve dont on parle ici ne sera pas un corps, comme on peut le penser, pour tout. Où on va, on dit, bon, voilà, qui s'est tiré là-bas, on le prend, on le met. Non. Ici, nous voulons faire un corps structuré, organisé, avec des conditions d'admission.
Et ce texte, déjà adopté au niveau du Conseil des ministres, attend d'être promulgué par le président de la République avant d'être légalisé. Par ailleurs, des corps sans vie ont été une fois de plus ramassés à différents endroits dans la ville de Lubumbashi. En rapport avec cette situation macabre, la police nationale congolaise sollicite la collaboration de toute la population pour mettre hors d'état de nuire ces tueurs qui sèment la terreur dans la ville. Des détails avec Jean Gandou.
Le dernier cas remonte à ce mardi où 3 corps ont été découverts dans la commune annexe, notamment sur l'avenue Cosmos. 2 corps sans vie étaient enfouis dans un sac de couleur blanche et frappés d'une bande rouge au milieu. Ce cas vient allonger la longue liste de victimes dont le mode opératoire de leur bourreau est quasiment le même. Les personnes tuées sont souvent mises dans le sac de même couleur, ce qui fait penser à un réseau bien organisé, indique la police. Pour cette dernière, pour mettre fin à ces pratiques qui créent la désolation, la population doit respecter certaines consignes, comme l'indique le porte-parole de la police dans le au Katanga, le major Charles Esperanto Binluamba.
Avant de prendre place à bord d'un taxi express, prendre soin de prélever l'immatriculation du taxi et de l'envoyer directement à vos proches tout en signalant l'itinéraire. Informer les cas de base de tout mouvement des personnes habitant les quartiers.
Notons qu'un jour avant cette découverte, 26 présumés bandits étaient présentés par le responsable de la police au gouverneur de province. Parmi eux, 5 membres de ce réseau qui seraient passés aux aveux. Ils avaient sur eux une arme AK-47, 5 chargeurs et 58 munitions. Le gouverneur Jacques Kiamboula a salué ce joli coup de filet et sollicité une fois de plus la collaboration de la population pour barrer la route à ces hommes qui endeuillent de nombreuses familles. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans la province du Bas-Ouélé, 7 chefferies des territoires de Bondo et d'Ango vivent dans l'insécurité totale à cause de la présence des rebelles ougandais de la LRA et ceux de la SELECA de la République centrafricaine. Ces hommes armés ont opéré d'ailleurs le 28 février et le 5 mars dernier dans la chefferie Mopo et en territoire d'Ango. Ils ont emporté 30 de personnes, essentiellement des jeunes dont quelques filles. Une preuve de plus qu'ils sont toujours actifs dans la région. Qui sont les SELECA? Où et comment opèrent-ils? Et qu'est-ce qui expliquerait la persistance de leurs activités criminelles dans cette province? Les explications avec Jacques Moukonkolé.
Coalition ethnique à coloration musulmane, la SELECA est une rébellion centrafricaine ayant porté son chef politique Michel Djotodia au pouvoir en septembre 2013 après un coup d'état contre François Bozizé, alors président centrafricain. Ce groupe rebelle a été dissous en septembre 2013 à la faveur du retour de l'ordre constitutionnel dans le pays. Très peu disciplinés et désorganisés, ils se sont retirés en province. Le début de leurs exactions dans le Bas-Ouélé remonte aux années 2016 selon la société société civile locale. Pour son secrétaire Didier Oussa, ils sont dispersés dans la brousse et opèrent en petits groupes. Dans le territoire de Bondo, ils sont actifs dans quatre chefferies, à savoir Bosso, Guamaï, Gaya et Kassa. En territoire d'Ango, ce sont les chefferies Mopoi, Ezo et Sassa qui sont affectées par leurs activités criminelles. Pour sa part, l'administrateur du territoire d'Ango déclare que ce rebelle de la Seleka aurait signé des accords avec les éleveurs Mbororo. À chaque fois qu'ils ne sont pas respectés, ils les poursuivent et à leur passage, ils s'en prennent aux paisibles citoyens. Qu'à cela ne tienne, l'athée Marcelin Bekabissia déplore la porosité des frontières dans le nord. Afin de mettre un terme aux exactions de ces groupes rebelles, il plaide pour le renforcement des effectifs militaires dans cette partie du pays. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les autorités ivoiriennes restituent ce mercredi 8 mars des corps de victimes de violences commises en mars 2011 au moment de la crise post-électorale de 2010-2011. En tout, trois localités, Ouiglo, Blolekim et Toulepleu, sont concernées par cette cérémonie conçue pour marquer un acte de la réconciliation nationale. Et puis, les femmes dans le monde, ce sont aussi ces Ukrainiennes réfugiées en Moldavie. Accueillies avec générosité dans ce pays très pauvre et menacé par la Russie, elles ont pu continuer de vivre décemment. Mais leur maison, leur pays leur manque. Les réfugiées ukrainiennes rêvent de pouvoir rentrer chez elles.
L'invité.
Quatre ONG, à savoir Asado, Akaj, ODEP et REGED, ont dans un communiqué publié la semaine dernière apporté leur soutien à l'inspection générale des finances au sujet de ses conclusions sur les contrats passés entre certaines entreprises chinoises et l'État congolais. Pour Jean-Claude Katende de l'Asado, ce contrat a fait perdre à l'État congolais beaucoup d'argent. Il faut le revisiter. Jean-Claude Katende est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Jean-Claude Katende, bonjour.
Bonjour.
Sur quoi vous êtes-vous basé pour apporter votre soutien à l'IGF?
Les conclusions auxquelles l'IGF a abouti sont proches du travail qui avait déjà été fait précédemment par la société civile, mais aussi par l'initiative de transparence des industries extractives en République démocratique du Congo. Sur cette base, nos quatre organisations ont estimé qu'on pouvait apporter notre soutien à l'inspection générale des finances pour que, d'une part, les autorités congolaises soient interpellées en rapport avec tout ce que nous avons appris de ce rapport, et d'autre part, que la justice congolaise puisse revérifier et enquêter sur les contrats chinois pour qu'on arrive à établir les responsabilités, surtout que les éléments en notre possession ont montré que ce contrat a plus profité au groupe des entreprises chinoises qu'à la République démocratique du Congo. Et dans ce contexte, nous pensons que nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous appellerons ici les crimes véritables. Établissement économique.
Nous savons qu'il y a également un groupe d'experts de la société civile qui n'a pas été d'accord avec les conclusions de l'IGF. Comment démarquer les deux tendances?
Je pense qu'il faut d'abord se poser la question sur la tendance qui n'approuve pas le rapport de l'IGF. Est-ce qu'elle a déjà travaillé sur les questions minières? Et en tant que tel, nous avions travaillé sur le contrat chinois et un rapport est disponible sur le site de l'ITIE avant même que l'IGF ne se soit intéressé à cette question. Maintenant, quand nous comparons les deux rapports, nous estimons que les conclusions sont proches, mais l'avantage que l'IGF a eu, c'est d'être une institution chargée de faire ce genre d'audit auprès des entreprises publiques ou auprès des entreprises privées dans lesquelles la République démocratique du Congo a investi de l'argent public. Donc, de notre côté, nous estimons que pour avoir déjà travaillé sur la question, nous pouvons comparer les conclusions des l'ITIE et des autres experts sur la question pour aboutir à la conclusion que ce travail qui a été fait par l'IGF, c'est un travail objectif, un travail qui nécessite le soutien non seulement des populations congolaises, mais aussi des autorités qui ont laissé l'IGF faire ce travail. Et encore plus, c'est là que nous avons sollicité l'implication de la justice pour établir les responsabilités. Au lieu qu'on demande qu'on ne prenne pas en compte le rapport de l'IGF, nous nous demandons qu'on s'en serve et que d'une manière indépendante, la justice puisse faire son travail. Donc, en ce qui concerne ce contrat, je pense que la CAJ, l'Asado, l'ODEP et le REGED ont une expérience avérée dans cette question que les autres.
Est-ce que les chiffres tels qu'ils donnés par l'IGF concordent avec les chiffres que vous aviez aussi rassemblés lors de vos différentes enquêtes?
Il est établi par tous les deux rapports qu'il y a eu un désavantage pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne les revenus générés par ce partenariat. Une autre constance, c'est en termes de questions qui ont été du respect même de la Convention. On va se rendre compte que la République démocratique du Congo, pour une raison ou une autre, a laissé les Chinois conduire ce partenariat comme s'ils en étaient les seuls maîtres. Un autre élément important qu'il faut souligner, c'est la conclusion à laquelle tous les deux rapports sont arrivés de dire qu'il est important que la République démocratique du Congo et le groupe des entreprises chinoises se mettent autour de la table pour renégocier ce contrat afin que la République démocratique du Congo se retrouve. Nous sommes allés très loin pour dire que à ce jour, si cette possibilité de renégocier n'est pas possible, il faut que la République démocratique du Congo puisse nationaliser la Sicomine. Depuis la mise en activité de cette entreprise, à ce jour, les Chinois ont déjà touché 9 milliards de dollars et que la République démocratique du Congo n'a touché que 822 millions. Vous pouvez vous-même établir qu'il y a un désavantage et qu'il faut absolument y mettre fin.
Jean-Claude Katende, je vous remercie.
Merci.
C'était notre invité Jean-Claude Katende, le président de l'Azado. Il était à Lubumbashi avec Jean Gandou. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.